Hello ! Bienvenue dans le podcast Intention. Mais en fait, on parle de quoi dans ce podcast ?
Et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, bah pour moi, ça, c'est aller vers une alimentation plus saine.
Est-ce que vraiment, encore vous répéter que nous, le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie ?
C'est en dehors de notre zone de confort que s'opère toute la magie de la vie. Et les amis, c'est tellement life-changing.
Montrer sur les réseaux que être entrepreneur, c'est archi chouette. Ça, c'est clair et net.
Donc en fait, tout revient toujours à l'alimentation. Encore une fois, c'est incroyable.
Notre santé, c'est 90% l'alimentation.
Ouais, c'est fou.
Et voilà, c'est ça l'ambition de notre podcast. Alimentation saine, épanouissement personnel, entrepreneuriat. On parle de tout ça sans filtre. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, c'est Isadora qui parle, comme d'habitude. Je suis accompagnée de Marisa.
Coucou.
Et d'Olivier. Bonjour, Olivier.
Bonjour. Vous allez bien?
Super.
On est hyper ravis de t'accueillir sur notre podcast. Ça fait tellement longtemps que je voulais t'avoir ici. Donc, je suis hyper contente. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Olivier, c'est le potager d'Olivier sur YouTube, qui nous partage comment faire un potager, vivre avec son potager. Enfin, c'est même plus que ça, c'est parfois un peu philosophique sur le potager. Et c'est le premier homme qu'on reçoit.
Oui.
Oh, c'est vrai.
Ah oui, c'est le premier homme. Bah oui, ça, il faut le dire parce qu'on est toujours avec, on parlait des femmes, mais nous on n'a rien contre les hommes.
Non, c'est vrai en plus.
Et ça fait longtemps qu'on te regarde. En plus, pour ceux qui nous suivent et qui écoutent le podcast souvent, vous avez déjà entendu parler du potager d'Olivier parce qu'on en parle très souvent. Mais avant de commencer vraiment le côté un peu potager, je voulais savoir, Olivier, qui tu étais avant d'être le pro du potager sur YouTube. C'était quoi un peu ta vie avant de te connecter à la nature comme ça?
Waouh. Bon, tu as la journée là, c'est bon?
Oui, je l'ai. Oui.
Pour faire rapidement, avant tout, j'ai envie de dire que je suis un homme, tu sais, comme vous êtes des femmes, on est quelqu'un d'humain. Mmh. Et je pense que rien que ça, tu vois, ça y joue dans mon cheminement vers le potager. C'est-à-dire que j'arrivais à la trentaine, les enfants aussi qui sont arrivés, tout ça, ça m'a grandement chamboulé, un besoin de revenir à l'essentiel. Et déjà, le simple fait d'être humain et de, vraiment, le potager m'apporte des choses tellement essentielles. Ça, c'est important. Après, avant le potager, j'étais quelqu'un, tu vois, qui avait peut-être pris des directions qui m'éloignaient de ces choses essentielles. Donc, j'avais un gros boulot, j'étais cadre, je faisais du management, dans des choses commerciales et tout, tu vois. Mmh. Alors, c'est génial tout ça, hein. Je me suis éclaté, je me suis prouvé des choses, gros boulot. Mais je sentais en fait un désir de faire travailler mes mains, de revenir à des choses pour lesquelles je m'étais éloigné. J'ai des grands-parents, tu sais, agriculteurs comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de familles proches de la terre. Et je pense, ouais, vraiment que je m'étais un peu éloigné de la terre. Et là, c'est le potager qui m'a, passionnément reconnecté à tout ça.
C'est génial, ça.
Ouais, c'est génial, mais c'est le cheminement, je te dis, de plein de gens. Et je pense que c'est ça qu'on retrouve un peu sur la chaîne, tu vois, c'est que je peux pas le cacher. Des fois, presque, on s'en moque de ma sensiblerie, tellement les gens sentent à quel point le potager, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans un premier livre, nourrit le bide, l'estomac, parce qu'il y a des bons légumes qui en sortent, mais ça nourrit aussi la tranche, parce que moi, encore aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de boulot à créer du contenu, comme vous, hein. Je sais que vous créez tellement de contenu. Et la moindre petite heure au potager, mais c'est comme, tu sais, comme un médicament, comme presque un antidépresseur. En tout cas, ça équilibre ma vie énormément.
Ouais, c'est une méditation, en fait, pour toi.
Presque, c'est une méditation. Alors après, se rajoute le contexte actuel, tu vois, où tu as une inflation galopante. Tu vois, le prix de la nourriture qui grimpe et se rajoute, du coup, le fait que quand même, si tu te débrouilles bien, on pourra y revenir, tu arrives à quand même récolter, moi j'arrive à plusieurs centaines de kilos sur une saison, et mine de rien, c'est aussi un petit peu d'argent que tu évites de dépenser ailleurs, quoi.
C'est vrai. Mais du coup, quand t'as quitté ton ancien boulot, c'était pour directement te mettre dans le potager. Tu t'es dit, je vais me lancer à fond dans le potager.
Ouais. Il y a eu une phase de transition, si tu veux, avec mon premier enfant qui est arrivé, ma femme a aussi un gros travail. Donc là, après, c'est des histoires de couple, tu vois, pareil. Moi, j'appelle ça l'équation hebdomadaire. On a tous un peu plus de 150 heures de vie chaque semaine, tu vois. on essaie de les équilibrer entre le travail, les passions, les loisirs, la maison. Donc ma femme, on avait une équation hebdomadaire qui était trop remplie, quoi. On travaillait tous les deux de trop, les enfants arrivaient. Donc c'est moi qui ai pris la décision d'un petit peu relâcher professionnellement pour m'occuper un peu des enfants. Et ça a été l'occasion de mettre vraiment le pied plus encore dans le potager. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais vidé les rayons de la médiathèque et tout. Ouais, elle me passionnait. C'est marrant parce que sur la chaîne, c'est pareil. Il y en a plein, ils regardent les vidéos et ils ont pas de potager, en fait, tu vois.
Oui.
Mais ils aspirent à... Et ça, c'est génial, d'ailleurs. C'est ma première rémunération, j'ai envie de dire. C'est d'inspirer les gens. Ça, c'est comme vous, je pense aussi, quoi.
C'est, mais c'est beau ce que tu dis, parce que j'ai jamais vu ça comme ça, mais ma première rémunération, c'est d'inspirer les gens. Je trouve ça très beau ce que tu dis, ouais.
Ah ouais, bon, c'est facile à dire. C'est vrai, on a tous besoin d'un petit peu d'argent, mais de savoir qu'on inspire. Moi, le premier, en fait, le soir, ou quand j'ai des moments de pause, vous, les filles, quoi, de vous regarder, il y a, quand on chope quelque chose, que ce soit émotionnellement, que ce soit une connaissance, une pédagogie, une personnalité, mais c'est la première richesse, quoi, pour l'être humain. Tu sais, on a tous besoin de jouer, de s'inspirer. Donc, ouais, vraiment. Donc, voilà, quoi, tu vois, je m'étais déjà renseigné pendant 3 ans et j'ai commencé à mettre les pieds au potager et j'ai trouvé un boulot à mi-temps. J'étais formateur, je réinsérais des demandeurs d'emploi. D'ailleurs, qui avaient de sacrés mérites, quoi. Ils se retrouvaient 35 heures par semaine à apprendre des nouveaux métiers. Donc, c'est moi qui les formais. Et puis, au bout de 2-3 ans, est venue cette idée de commencer à partager ma passion du potager, tu vois. Donc, j'avais 10 mètres carrés, et puis 20 mètres, et puis 30. Alors là, c'était une négociation avec madame, tu vois. Toute la pelouse autour de la maison qu'on avait à l'époque, elle s'est transformée en potager. Et puis après, on a eu la chance de déménager. Et là, tout s'est accéléré. En fait, le potager a grandi avec la passion et avec la chaîne après, sur ces 5 dernières années, avec la chaîne YouTube. Qui a grandi elle aussi, quoi.
Donc finalement, ta passion est devenue ton métier.
Oui, bah en fait, c'est le constat que j'avais fait, tu vois, c'est que j'avais un métier qui me passionnait plus du tout. J'enseignais toujours ces matières, tu sais, un peu commerciales, gestion, profit. Bon, c'est bien, il en faut dans les entreprises pour pas que ça se casse la gueule, tu vois. Il faut faire attention aux dépenses, au management. Mais j'avais plus envie, quoi, tout simplement de tout ça. Et à côté de ça, je rentrais chez moi et j'étais passionné comme un dingue de choses que je n'enseignais pas, tu vois. J'ai essayé de faire un petit peu le mix de tout ça et me dire, essaie d'enseigner, de partager des choses pour lesquelles tu es passionné. Et c'est là que la chaîne a rempli son rôle, en fait, hein, parce que, bah, comme vous, pareil, je veux dire, on est pareil. Quand on parle de quelque chose qui nous imprègne, qu'on est passionné, bah, déjà, la moitié du travail, elle est faite, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Tu as raison.
donc, c'est comme ça que la chaîne a pris de l'ampleur.
Ça fait combien de temps, du coup, la chaîne?
Bah, ça fait 5 ans, je te raconte pas. Quand je vois mes premières vidéos, j'avais des cheveux et tout, c'était...
Je suis pas remontée aussi loin alors, j'ai pas vu ça.
C'était une autre époque, ouais, dans 5 ans, avec la voix toute tremblotante, pas trop de montage parce que j'avais pas le temps, tu vois, j'avais encore mon travail à côté. Les enfants étaient plus petits, donc toujours cette équation hebdomadaire qui était différente, tu vois, j'avais pas de temps que j'avais maintenant pour la chaîne. Et puis petit à petit, et puis il y a eu le Covid, hein, tu vois, il y a eu aussi plein de choses qui ont fait que le potager, qui était déjà quelque chose d'essentiel il y a 5 ans, mais qu'il a encore plus, et je me demande s'il ne sera pas encore plus dans 5 ans. Tu vois, donc...
D'ailleurs, ça me fait, j'allais te dire, est-ce que le Covid aussi a contribué au succès de ta chaîne? Parce que c'est vrai que, mais alors tous, et moi, je lève la main, mais moi la première, j'avais déjà fait un potager en suivant tes conseils l'année auparavant. Ouais. Mais c'est vrai que le jour où il y a eu le Covid, l'année où il y a eu le Covid, c'est super bon, mais c'est une année où... Pourquoi, en mois d'avril, il faisait un temps incroyable.
Ouais,
et du coup,
vrai.
On est tous restés dehors. Moi, j'ai fait mon potager et je regardais du coup ta chaîne tout le temps. Bah, j'ai eu ton livre aussi qu'on m'a offert à Noël, à mon anniversaire plutôt. Est-ce que tu penses que aussi le fait d'avoir, qu'il y a eu le Covid, a été aussi un propulseur de ta chaîne, parce qu'on s'est tous mis beaucoup à regarder comment faire un potager, etc.
Ouais. Même pour te dire, ça a été difficile à gérer émotionnellement, tu vois, parce que effectivement, il faut pas se leurrer. Les gens, non seulement pour beaucoup, pouvaient pas travailler, plus la peur de manquer, parce qu'on s'est retrouvé avec vraiment une peur, de manquer de nourriture. Donc, tu as eu un double impact qui fait que les gens avaient du temps, donc ont pu se mettre devant des écrans, et notamment devant ma chaîne. Et qui plus est, pour avec une crainte de manquer de nourriture, donc l'idée de se mettre au potager pour produire, quoi, tu vois. Donc la chaîne, c'était un indicateur pas possible qui montrait cet attrait, c'est que clairement, je me souviens, s'il faut parler en nombre d'abonnés, tu vois, je crois que j'étais quand même déjà presque à 100 000 abonnés. Donc la chaîne avait déjà une belle trajectoire, mais ça l'a doublé en 6 mois, tu vois.
Incroyable. Ah, je savais pas du tout.
Ah ouais, oui, je crois que, enfin, doublé ou en tout cas en un an, enfin, ça a été. Mais même pour moi c'était trop parce que tu vois moi je suis un jardinier comme monsieur tout le monde, je bon j'ai des connaissances, j'ai une pédagogie, tout ça, mais ça fait bizarre tu vois de se retrouver sous le feu des projecteurs, donc tout ça c'est pas tous les jours évident à gérer quoi. Mais après voilà, c'est un effet d'aubaine, mais moi je suis pas opportuniste, donc ça fait bizarre. Donc ouais, il a fallu intégrer ça quoi. Écoute, hein, après comme on dit, on crache pas dans la soupe, tant mieux pour la chaîne. Mais j'avais une pensée constante pour ces gens quoi, qui pendant un an, deux ans se retrouvaient avec un boulot mis de côté, c'est pas évident quoi. Après, ce qui est chouette, c'est que tu vois, même si là le Covid, je l'espère, va se terminer quoi, se termine. Bon après, il y a d'autres événements chaotiques en ce moment, mais on sent qu'il y a quand même toujours un grand intérêt pour le potager, tu vois. Après, moi, j'essaie vraiment de l'aborder toujours comme un potager. J'ai envie que ça reste un plaisir, tu vois. Je sais qu'il y a toute une, je sais pas comment dire, un penchant un petit peu autonomiste de la vision du potager, tu sais. Des gens qui ont beaucoup de rébellion contre la société, contre les excès en tout genre, contre la consommation. Mais je trouve que ça peut vite devenir contraignant. Il faut faire des choix de vie qui sont vraiment autres, presque. Il faut pas travailler
changer
à côté.
De vie, ouais.
Tu vois, donc je respecte ces gens-là, mais c'est pas quelque chose que je prône forcément. Moi, j'aime beaucoup travailler à côté, quand même. Faire travailler aussi les autres, tu vois, consommer localement, consommer biologiquement, les échanges de travail. Donc, j'aime quand même travailler à côté, notamment créer du contenu. Et je tiens à garder le potager comme quelque chose, tu vois, d'accessoire.
Oui, d'accord.
Je veux qu'ils me prennent 1 heure, 2 heures par semaine. Même si c'est, même si tant pis, je suis pas autonome à 100%, même si c'est que 50%, 60%, 80% en légumes. Ça me va très bien, mais je veux garder quand même un travail à côté. Donc ça, c'est à chacun de voir à quel degré il veut s'investir et quel choix de vie il veut faire.
Mais c'est vrai que généralement, les personnes comme moi, par exemple, et beaucoup, je vois, dans nos abonnés, quand on parle du potager, on est tous un peu pareils. C'est plus, déjà au mois de mars, on s'y met tous un peu parce que c'est le moment un peu du renouveau. C'est avoir une autre activité que celle d'être tout le temps surconnecté. Et surproductif, ouais. Parce qu'on l'est tous plus ou moins. Aujourd'hui, c'est productivité, qu'on soit entrepreneur ou pas, hein, peu importe. Hein. Oui. On est productif en tant que salarié ou entrepreneur, mais on est productif en tant que femme aussi, avec parfois une charge mentale dans le foyer. Il faut faire plein de choses. Donc c'est vrai que le potager, ça a ce côté, comme tu dis, je trouve que c'est une petite bulle que nous, on se crée. Et nous, c'est vrai qu'avec mon conjoint, c'est plus le côté où on est tous les deux ensemble, ouais. Alors que d'habitude bah on l'est pas beaucoup, ouais. Donc c'est vraiment un petit truc familial, on est avec notre fille, voilà, on fait un petit truc ensemble, plus que on veut absolument s'autosuffire. D'ailleurs c'est même pas une idée, c'est plus on va faire pousser ensemble des choses, on va se reconnecter ensemble dans notre jardin. Et ça, c'est,
et même pour l'estime de soi, moi je trouve que c'est quelque chose d'hyper puissant pour l'estime de soi, justement dans ce, nous sur notre plateforme on parle beaucoup d'alimentation évidemment, mais l'alimentation, il n'y a pas que l'assiette en fait, il y a aussi toute la partie émotionnelle à côté. Et cette, on parle beaucoup de valorisation d'estime de soi, c'est pour ça qu'on dit souvent à nos membres, cuisinez des choses que vous n'avez jamais cuisinées, je sais pas, des profiteroles, une pièce montée, faites quelque chose qui va vous donner une confiance en vous. Et moi je trouve que le potager, il a ce pouvoir. Quand t'as ta première courgette, ta première tomate, t'es surexcité, tu le montres au
monde entier.
Regardez ma courgette, je l'ai là, c'est hyper sympa. Ouais, moi je trouve que c'était, ouais. Et même pour l'éducation alimentaire après, moi j'ai une belle fille qui elle mange jamais de légumes chez sa maman, très rarement plutôt on va dire. Et quand on avait fait le potager, le modeste potager que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'était, mais la voir manger des tomates cerises, la voir manger des courgettes parce qu'on les avait cueillies ensemble, c'était un bonheur quoi. Donc il y a plein de choses que c'est pas juste s'autosuffire.
Ouais. Tu vois, mais tu vois, ça rejoint les propos que je tenais au tout début, tu vois, cette notion de se rapprocher sur des choses vraiment hyper factuelles, hyper existentielles. Ce mot sens, moi il me colle vraiment à la peau, tu vois. Et notamment quand t'es cadre, ou je pense à tous ces gens qui ont des travails, tu sais, où tu te déconnectes, hein, de tes 5 sens, en fait. T'as pas d'odorat, t'as pas de goût, tu te fais pas travailler tes mains, t'as juste des chiffres, des tableaux Excel, tu vois. Et du coup, là, tu te retrouves vraiment à, tu te poses pas la question de ton utilité, tu vois. Alors, c'est à la fois le luxe et le problème de notre société, en fait. C'est que, tu sais, on est des animaux, quoi, à la base, et on a des instincts de survie, de reproduction qu'on a perdu, en fait, parce que la société nous l'apporte, tu vois. Et des fois, on se demande à quoi je sers, quoi, tu sais, si en plus t'as un travail qui est pas très existentiel. Et là, tu vas au potager, et t'as vraiment trop bien décrit la chose, c'est que tu vas semer, alors, la graine, c'est pareil, c'est un symbole, mais tellement fort, quoi, on vient tous d'une graine, tu vois. Donc là, tu mets une graine à la terre. Tu vois tout ça se développer, tu le partages. Alors avec moi, je te dis de suite, j'ai la voix qui tremble parce que tu le partages avec les gens pour lesquels tu prends le plus soin de ta vie, quoi, tes conjoints, tes enfants. Et comme tu disais, mais moi, quand je vois mes enfants bouffer ce que j'ai produit, mais on parlait tout à l'heure de rémunération, mais quoi, c'est juste délirant, quoi. Même mon père, tu vois, j'ai mes parents qui sont séparés, mais ils viennent séparément, donc, mais. J'ai des images connes, quoi. Je vois mon père manger des épinards, ses yeux là, tu sais, qui brillent, genre mais qu'est-ce que c'est, j'ai jamais goûté ça de ma vie, et pourtant il en a mangé des bonnes choses. Mais voilà, des épinards du potager, ben qu'est-ce que vous voulez, vous trouverez ça nulle part ailleurs, parce que ça a du goût, parce que c'est vous qui l'avez fait. Il y a un cerveau qui trouve les choses meilleures quand c'est nous qui l'avons fait. Donc mettre un prix au kilo, tu sais, souvent on dit, est-ce que le potager c'est rentable, mais quel prix tu mets à ça, quoi. En fait, ça, limite, ça a pas de prix. Enfin, ça, si pécuniairement, ça a un prix, mais là, il faut s'enlever les barrières purement d'argent, quoi, parce que c'est complètement dingue. Et puis après, il y a l'aspect local. Donc vraiment, faut faire du potager, quoi. Il y a pas à chipoter.
Et tu parlais de ton entourage, de ta famille, et justement, qu'est-ce que ça a apporté à tes proches, le fait de te voir au potager? Est-ce que eux aussi, parce que je sais pas, tes enfants, je sais pas quel âge ils ont, mais ça se trouve, ils sont déjà dans l'âge où ils sont un peu connectés sur les réseaux, ou peut-être la télé, ou est-ce que quand ils te voient aller dans le potager, ça leur donne aussi envie? Est-ce que ta femme est toujours cadre et elle va quand même faire le potager avec toi? Qu'est-ce que ça a apporté aussi dans la sphère familiale et proche?
Ouais, il y a plusieurs sphères, c'est vrai, tu as raison. La sphère familiale, elle est forcément, elle est contaminée par ma passion. Donc ils veulent chacun avoir leur carré potager. Tu sais, les carrés, ça a l'avantage de définir. Pour les enfants, ça rassure, ça leur donne une responsabilité. Donc ils ont chacun leur carré, ils s'y régalent. Après, voilà, je vais pas mentir, il faut quand même se battre parfois pour les sortir des écrans. Mais après, là où c'est génial, c'est la notion qu'ils ont de la nourriture, du légume. Ils savent que c'est papa qui a fait l'effort. Si tu veux, ils regardent pas un légume comme un truc qui vaut rien. Ils regardent un légume comme un truc précieux, quoi. Donc du coup, ils font l'effort de goûter et ils aiment, quoi. Et vraiment, ça, c'est, tu le vois, quoi. Ils ont une notion de la valeur de la moindre assiette qu'il y a à table. Et ça, c'est génial parce qu'il y a un respect, le respect en général, en fait, tu vois. Tu leur apprends le respect de l'assiette et de celui qui a produit l'assiette, tu vois. Donc il y a toute une notion de respect. De très bas âge, hein, vraiment, dès qu'ils avaient 4-5 ans. Là, maintenant, ils ont 9 et 11 ans. Et ils sont très respectueux, en fait, tu vois, du moindre légume. Et ça, c'est vraiment chouette. Et après, avec ma compagne, il y a une double, parce qu'un potager, c'est prenant, quoi. Plus tout mon travail à côté. Donc, elle aimerait parfois un peu plus partir plus souvent, tu vois. Parce qu'un potager, ben, surtout en pleine saison, surtout si tu fais les semis, ça te bloque un peu au jour le jour. Donc c'est une passion à la fois passionnante, mais comme toute passion, il faut trouver, comme toute vie, il faut trouver les bons équilibres. Donc des fois on aimerait avoir plus de liberté, mais bon, c'est le jeu, quoi. On essaie d'en avoir hors saison, tu sais, j'essaie moi de pas trop faire de potager en novembre, décembre, et on en profite pour partir en vacances sur ces moments-là, quoi.
Parce que c'est vrai que toi, t'as un gros potager quand même. Enfin, je veux dire, à côté, alors là, c'est Isadora qui parle. Moi, j'ai 2 carrés. Hein. Je vois même pas te dire, mais simplement, ça fait 2 mètres carrés, quoi. Donc, c'est ridicule.
Oui, mais c'est déjà génial, tu vois.
C'est ce que génial, je fais.
Moi, je sais que je lis souvent les études et tout pour essayer de pas être déconnecté de la réalité, parce que je le suis, quoi. Moi, je suis un dingo du potager, et puis maintenant, en plus, c'est un travail, donc il fait, je l'ai mesuré cette année d'ailleurs, il fait 170 mètres carrés de cultivé, tu vois. Et la moyenne, je crois que c'est moins de 20 mètres carrés, tu vois. Donc, mais par contre, j'arrête pas de dire, mais et ça me rappelle mes premières années, ne serait-ce que 1 mètre carré, tu vois, tu vas mettre 2 plants de tomates, tu vas essayer quelques radis, quelques épinards, même mon père, tu vois, Il s'est fait juste deux fois 2 mètres carrés, mais tu sens quoi que c'est ses petits bébés. Donc il faut surtout, et moi ça sur ma chaîne c'est une priorité absolue quoi. Surtout ne jamais culpabiliser quoi. C'est là où je te dis quoi. Je sais qu'il y a d'autres chaînes où et je te dis presque souvent on me le reproche parce que comme j'ai beaucoup de visibilité, il y a des gens qui aimeraient que je montre le potager comme genre excuse-moi le gros mot mais fuck le système, produisez, mais non. Vraiment, si vous avez ne serait-ce qu'un 2 mètres carrés, c'est déjà génial.
La question que je me posais, c'est avant d'avoir ton potager, est-ce que tu aimais les légumes? Est-ce que tu mangeais vraiment des légumes et d'où venaient-ils?
Ouais, je mangeais des légumes, mais j'étais tellement dans une autre équation hebdomadaire. En fait, si tu veux, il n'y avait pas les enfants, j'avais moins de 30 ans. Donc, c'était vraiment... en fait, je me souviens, j'avais... Des fois, c'est vrai que je résonne en blessure. Je trouve qu'on a tous un petit peu des blessures, tu sais, dans la vie, de reconnaissance, d'injustice, de choses à se prouver, tu vois. Et je pense que vraiment, j'avais besoin de me prouver des choses dans un métier prenant, tu vois. Donc, les légumes, pour moi, c'était juste un truc sur un étal. Je me posais pas du tout la question de la saisonnalité, du transport, de la localité de la chose, tu vois. Donc, mais quand même, j'en mangeais, tu vois. Moi, l'alimentation, tu vois, c'est quand même quelque chose. Je fais du sport et tout. J'essaie de vraiment de diversifier. C'est un autre mot de ma vie, ça. Tu vois, la diversité. Souvent dans les vidéos, je le répète. Même dans mes connaissances, je dis souvent aux gens diversifier, aller voir d'autres personnes, aller voir d'autres sources de connaissances. Ne prenez pas mot pour mot ce que je dis. Donc, l'alimentation très très diversifiée. Mais après. L'énorme interpellation dès la première récolte du potager de se dire mais qu'est-ce qu'il y a sur les étals de supermarché parce que ça a pas du tout le même goût quoi tu vois là ça a été frappant quand je me suis dit bon après avec les connaissances et tout on comprend en fait hein. On comprend que les légumes qu'il y a sur les supermarchés enfin je vais pas les dénigrer parce que j'aime pas ça non plus hein, mais juste ils prennent du frigo ils sont récoltés de façon immature hein, ils ont des engrais chimiques qui leur fait se gorger d'eau et si tu veux ce sont des légumes qui ont une notion de goût qui n'a rien à voir avec ce qu'on a au potager quoi. Donc par rapport aux légumes ça a été vraiment une claque niveau gustatif quoi et ça du coup t'en manges deux fois plus parce que c'est deux fois meilleur.
Bien sûr. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi déculpabilisant pour les personnes qui nous écoutent parce que nous on sait qu'on est beaucoup suivis par des personnes justement qui sont intéressées par l'alimentation saine mais qui détestent les légumes, que les légumes c'est pas possible et parfois, comme tu disais tout à l'heure, en hors micro, le côté gourou, tu sais, parfois les personnes nous regardent, nous, en pensant qu'on a l'alimentation suprême, que nous, on mange tellement toujours très bien, etc. Et qu'on est né comme ça. Alors que toi, ce qui est intéressant, c'est ce côté, ce cheminement, justement, dont on parle très souvent sur les réseaux, de se dire, mais c'est un cheminement, nous, pendant des années, j'ai mangé des courgettes en plein mois de février. Pendant des années, je me suis pas posé la question, parce que pareil, moi, j'avais pas d'enfant, j'étais jeune, je me posais pas ce genre de questions, on s'en fichait, en fait, de ce qu'on mettait, en fait, dans notre corps. C'est au fur et à mesure, le cheminement, toi, c'est par rapport au potager, mais nous, c'est par rapport, justement, je voulais perdre du poids, tout simplement, c'était vraiment bête et, voilà, c'est comme ça. C'est des cheminements qui sont vachement intéressants parce que, oui, c'est pour les gens qui ont peu d'espoir d'aimer un jour les légumes. Un jour, on peut aimer les légumes et même notre mère est toujours impressionnée quand elle nous voit manger des légumes parce qu'elle dit « Mais vous n'aimiez rien avant, vous n'aimiez rien !» Donc oui, il y a possibilité d'un jour d'aimer les légumes et d'autant plus quand ils sont bons et qu'ils viennent d'un endroit où ils ont été cultivés de façon écologique et aussi avec amour. Quoi.
Ouais, et en plus, je pense que de toute façon, même les enfants, ça se voit. Oui. C'est surtout les enfants où c'est drôle à voir quand ils te disent « On n'aime pas les légumes », mais quand ils viennent dans notre jardin, nous on a un grand jardin et il y a le potager là. Et c'est drôle parce que les enfants vont venir autour et puis les tomates cerises qui pendouillent, tout le monde a envie de les prendre et de les manger directement. Alors que pourtant, à table, par exemple ma fille, à table elle va pas manger les tomates cerises, mais quand on est dans le potager, mais elle les mange. Donc finalement,
C'est fou.
Dire que quand c'est dans la nature comme ça, et en plus ils sont beaucoup plus connectés que nous à la nature.
Parce que c'est l'instinct primaire comme tu disais tout à l'heure, on est des animaux, donc eux ils ont encore cet instinct, tant que la société ne les a pas complètement détournés de leur instinct premier, c'est ça qui est hyper beau à voir quoi.
C'est clair. Ah ouais, non, c'est sûr, on est des chasseurs-cueilleurs, et c'est vrai, hein, les enfants, c'est comme tu dis, ils mentent pas quoi. Après, forcément, ils auront des goûts, ils auront des préférences. Moi, je sais, tu vois, mon petit, les betteraves, il a du mal. Il sait hein, qu'elles viennent du potager et tout. Bon, tu vas pas forcer, mais par contre, il y a des tomes de légumes, les haricots. c'est limite, c'est une orgie, tu vois, pour eux, c'est dingue, c'est un truc de fou de les voir manger ça, en réclamer. Les choux, c'est quand même une culture assez, même pour des adultes, hein. Moi, souvent, quand je parle des choux, ça freine un peu des quatre pieds. Mais néanmoins, pareil, tu vois, quand ça vient du potager, souvent, le chou est beaucoup plus doux, il a pas ce côté, je sais pas comment dire, là, un peu piquant, là, que tu trouves parfois dans le commerce, quoi. Donc là, de voir mes gamins qui se régalent de choux, moi, ça me fait rigoler, quoi. Et puis, après, les patates douces, bon, bien sûr, les pommes de terre. Mais nous, tu vois, par exemple, on n'a pas de friteuse. Après, tu as la façon de les cuisiner. Moi, je sais qu'on prend soin aussi d'avoir des bonnes huiles d'olive. Ça apporte aussi beaucoup de goût. Et du coup, je pense à mon beau-père aussi, les betteraves. Tu vois, il aimait jamais ça. Ben, pareil, je pense qu'il avait un blocage de la betterave du commerce. Et là, d'avoir des betteraves du potager qui sont infiniment plus douces, que tu arrives à enlever un côté un peu désagréable, mélangé à une petite recette sympa que vous proposez, par exemple. Et du coup, ouais, après, la partie cuisine, il joue, même si, souvent, je répète quand même que du moment que t'as un bon produit, il faut pas faire grand chose derrière, quoi. Des fois, la cuisine, elle aide à cacher la misère, tu vois. Et après, dans l'idéal, bien sûr, c'est le bon produit et la bonne cuisine. Et alors là, tu arrives au nirvana, tu vois.
Mais de toute façon, c'est ce qu'on dit souvent aussi, même sur notre plateforme. C'est le problème de l'industrie qui a tellement exhausté les goûts du sel, ouais, du sucre, des additifs, etc. C'est qu'on ne sait plus quel est le goût des choses.
Ah, oui.
Et c'est vrai qu'un un légume du potager ou un légume que nous n'achète, par exemple, nous, à la ferme, bah, c'est sûr que si on va le faire, par exemple, je sais pas moi, à la vapeur avec un petit peu d'huile d'olive, ça a un goût. Et pourtant, quand on regarde, encore une fois, quand on regarde nos enfants, c'est fou comme ils peuvent se régaler de, je sais pas moi, chou-fleur ou brocoli, vapeur comme ça.
Tu vois, les épinards, tu sais, moi, franchement, je suis une première victime d'ailleurs de la cantine de l'école à l'époque, épinards bouillis, tu sais, mais c'était horrible, quoi. Et franchement, je me souviens, mes premières années, je me suis forcé à semer les épinards, quoi. Je me suis dit, mais ça va être dégueulasse, quoi. J'en avais jamais acheté entre temps dans le commerce. En fait, ouais, j'en ai pas mangé pendant 20 ans, quoi. Tu vois, les derniers épinards, c'était ceux de la cantine, quoi. Et donc, je me souviens de cette première assiette, mais à me péter le bide et à me dire, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Une douceur et tout. Et les enfants ont suivi. Alors après, je pense que, tu sais, c'est des éponges, ils suivent les parents. Souvent, quand t'as des peurs, des blocages, que ce soit pour l'alimentation, pour tout le reste, ils suivent un peu le chemin. Donc, je pense qu'ils ressentent, quoi, que tu t'éclates, qu'en plus tu l'as produit et tout. Donc, ils suivent un petit peu le move. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, justement, quand ils te disent qu'ils aiment pas, parce que ça arrive, hein, c'est normal. Du coup, tu les crois, en fait. Il y a plus trop de négociations. Tu acceptes, en fait, parce que tu sais qu'ils mentent pas. Parce que sur d'autres légumes, ils font l'effort, ils adorent. Donc, ça t'évite aussi des discussions sans fin autour des repas. C'est vraiment chouette, ouais. Ça, c'est vrai que ce rapport à l'alimentation, il est compliqué, hein, dans notre société. L'alimentation, ouais, je sais pas comment dire, quoi. C'est un refuge pour beaucoup. Tu sais, toujours pareil, cette notion. Tu te perds sur des choses non essentielles ailleurs. Donc, des fois, tu te rattrapes dans la bouffe et tout. C'est vrai que ça, autant aller le faire à produire des légumes plutôt que trop manger des assiettes de malbouffe, quoi. Donc là, encore une fois, une bonne raison de faire du potager.
Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent, moi, par exemple, mais moi, j'ai pas le temps, toi, t'as le temps? Hein, t'as le temps,
oui,
parce que t'es sur YouTube.
T'es YouTubeur, donc t'as pas de métier, c'est.
T'as le temps, toi, de faire ça. Mais moi, j'ai pas le temps, tu vois. Moi, j'ai une entreprise.
Ça me fait rigoler parce que j'ai des gens qui me voient vraiment comme un jardinier et qui en oublient complètement que je fais des vidéos. Ça me rappelle, tu sais, une fois, j'avais pas publié le dimanche. Je publie le dimanche à 8h30, tu sais.
Ouais.
Il y a des gens qui croient que je me lève à 7h30, que je vais filmer, tu sais, ils me disent « Ah, tu t'es pas réveillé, t'as pas eu le temps d'aller tourner. » Mais non, je mets 30 heures. Bon. Donc oui, pour dire que, comme je disais tout à l'heure, moi je veux travailler à côté, je veux du temps. Je veux du temps pour mes enfants, pour ma femme, pour mes amis, pour ma famille, pour du sport. Donc crois-moi que l'équation hebdomadaire, en fait, elle est remplie par beaucoup, beaucoup plus de choses que celle du potager, tu vois. Donc le temps, pour moi en fait, c'est une fausse excuse de dire j'ai pas le temps. C'est pas vrai parce qu'on l'a tous, d'accord. Mais de dire je ne prends pas le temps, en fait, là, d'accord. Je ne prends pas le temps parce que je le prends pour mon travail, pour d'autres choix de vie. Là, ok. Mais après, je n'ai pas le temps. C'est une mauvaise, si tu veux, c'est un petit peu une mauvaise phrase dans le sens où moi, dans ma vie, j'ai pas plus de temps que vous. Hein, on est d'accord. On a tous des journées de 24 heures. Donc c'est juste des choix de vie. Je te prends l'exemple, le temps des écrans, je pense qu'on y passe, je crois que c'est 3, 4, 5 heures hein, par jour en loisir, hein, vraiment en loisir. Donc moi, notamment sur les 6 mois où les jours sont longs, ben j'enlève 1 à 2 heures sur ce temps-là et je le mets au potager, tu vois. Avec ma femme est d'accord, plutôt que de regarder un film le soir, après le repas, là, à 8 heures, je vais au potager pendant une heure, tu vois. Et je m'occupe de faire ce qu'il y a à faire. Au printemps, on prend une journée entière par-ci, par-là. Donc, ce sont purement et vraiment des choix de vie, tu vois. Dire j'ai pas le temps, c'est juste un choix de vie. Moi, je comprends très bien les gens qui ne prennent pas le temps parce que un potager, c'est chiant aussi, hein. Surtout si tu fais le semi, il faut être là tous les jours. Tu as des ravageurs, tu as des aléas météo, tu as le gel, le froid, tu as les limaces, hein, tu vois. Ça, d'ailleurs, je l'ai pas assez montré mes premières années, hein. Vraiment, j'ai tellement de passion que j'ai tendance à montrer les beaux côtés, tu vois. Et en fait, c'est la communauté année après année qui m'a mis en pleine face que j'ai vu plein de gens un petit peu désappointés. Donc, j'essaie de nuancer ma passion en montrant que le potager, c'est quand même aussi des galères. On pourra y revenir. Donc, je comprends très bien, voilà, pour en revenir à ça, que les gens prennent le temps pour autre chose, tu vois. Mais tu peux avoir un gros boulot, tu peux avoir un conjoint, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une grande maison. Et tu peux avoir un potager si tu organises bien ton équation hebdomadaire. Ça, c'est la galère de chacun d'entre nous.
En plus, c'est drôle parce que tu dises par rapport au boulot, parce que on a notre amie avec qui on travaille, qui est naturopathe, Claudie, qui elle a fait son potager en suivant aussi toutes tes vidéos. Elle s'est inscrite aussi sur ta plateforme en même temps que moi. Et elle me disait, parce que moi je lui disais, ouais, vraiment cette année, c'est ok, cette année, je n'arrête pas, je arrête de dire que j'ai pas le temps, j'arrête de consacrer toute ma vie à mon boulot plutôt qu'à ma vie perso. Et elle me disait, tu sais, moi mon amie, elle est PDG d'une grosse boîte et elle a son potager. Je suis là, ah bon? Elle a, je sais pas combien d'employés, enfin c'est une énorme boîte, elle est PDG, mais quand même, le week-end, elle tient à avoir au moins une heure dans son potager. Elle le laisse un peu... comme ça, c'est-à-dire qu'elle fait pas quelque chose de beau, tu vois. Par exemple, Claudie, elle, c'est plus, elle met des jolies fleurs dans son potager, prend du temps, un très très beau potager, visuellement il est magnifique, alors que elle, son amie, elle, c'est plus, elle le laisse un peu comme ça, elle prend du temps pour aller cueillir, etc., mais elle a quand même son potager, alors que, elle est PDG d'une grosse boîte, donc ça prouve bien, en effet, que, on a le temps quand on le prend.
Oui, voilà. Et puis après, tu le dimensionnes, si tu veux, toujours pareil à ton équation de vie, quoi. C'est-à-dire que tu peux très bien faire 1 mètre carré juste pour voir ce que ça donne de planter 3 plants. Tu peux très bien faire 2, 5, 10, 20, 50, 100. Moi, j'ai des abonnés qui font 500. Au-dessus de 100, tu commences à rentrer dans un potager de compétition. Donc, il te faudra en moyenne 1 heure par jour, tu vois. Et en fait, 1 heure par jour, c'est rien et c'est énorme à la fois, quoi. Ce sont, tu sais, moi, je te dis, hein, on a des applications de réseaux sociaux. C'est cruel parce que tu peux voir le temps que tu y passes en tant que visiteur, c'est-à-dire en tant que loisir. Tu prends peur, quoi. Moi, encore là, j'ai regardé, j'ai passé 5 heures sur une application là, à naviguer. Et 5 heures, crois bien que, voilà, tu peux passer, tu peux entretenir un énorme potager. Mais ça implique que tu passes moins de temps. Donc, tu vois, c'est purement des choix, quoi, je pense. Après, il y a aussi... moi, j'ai mis quand même 30 ans avant d'avoir un premier terrain. Donc, c'est pas rien, tu vois. Il faut, aujourd'hui, chaque mètre carré, ça a quand même un coût. Donc, il faut faire... pareil, il faut faire des choix. Il faut travailler peut-être à côté, mettre de côté. Moi, au début, j'avais un tout petit terrain. Et puis, c'est à 40 ans que j'ai pu avoir un plus grand terrain encore. Donc là, c'est pareil. C'est pour ça que maintenant aussi, je fais évoluer la chaîne, tu vois, vers des solutions. Là, dimanche, je sors des plantations en sac, tu vois, dans des sacs en tissu écologique, en feutre épais. Parce que c'est chouette, je trouve. T'as un petit balcon, une petite terrasse. Je crois qu'il y a 20 millions de terrasses en France, tu sais. Tu prends 2-3 sacs et juste... franchement, le plant de tomate, c'est l'exemple type où c'est quand même dingue, tu vois. Tu plantes un petit plant tout bête, entre guillemets, quoi. Et tu peux espérer 3, 4, 5, 6, 7 kilos... Ouais, autant ne pas s'en priver, ça peut être sympa, quoi.
Et du coup, toi, maintenant que ça fait plusieurs années que t'es sur YouTube, est-ce que tu sens, par rapport à ta communauté, pour quelles raisons les personnes se lancent dans un potager? C'est quoi les raisons que tu vois en priorité, toi?
Ouais, ça c'est une super question. Y a quelque chose qui revient souvent, c'est le goût, tu vois. Tu en parlais tout à l'heure dans cette industrie qui a... Alors, ils essaient de faire des miracles avec des rehausseurs de goût, mais tu as quand même une problématique de... les gens vraiment veulent absolument avoir du goût. Tu as un petit peu le coût, donc c'est vrai que voilà, tu, 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 tu espères, alors je dis bien tu espères, hein, faire des économies. Après, moi, là-dessus, je surfe pas. Tu vois, je pourrais être démagogique. Hein, je pourrais plaire aux foules et dire, faites un potager, vous allez récolter, comme moi, 500, 600 kilos, vous allez gagner un SMIC et tout. Mais il y a quand même des dépenses, tu vois. Il faut du temps, donc c'est quand même une dépense. Le temps, aujourd'hui, quelque part, tu vois, ça a une valeur. Donc, il faut s'y investir. Il faut acheter souvent du terreau, des amendements, des paillages, des graines, parfois des traitements naturels. Donc, si tu veux, ça a quand même des coûts. Donc, au final, je simplifierai pas une vérité à dire un potager va te rendre riche, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, tu produis du goût, tu produis quelque chose de local, tu produis quelque chose de bon, tu produis quelque chose sans pesticides, sans transport, sans frigo. Donc, tu vois, les gens vont vers là, je pense, pour ces choses de goût et d'existence. Moi, j'utilise souvent ce mot d'existentiel, tu vois, d'essentiel. Ça, je pense même que ça passe avant tout. Il y a, je le répète, une approche de gens qui veulent le faire par autonomie. Alors là, où vraiment c'est une besogne. Hein. Même parfois, ils ont des animaux à côté, micro-fermes. C'est vraiment, je sais pas si je suis admiratif ou à la fois, j'ai un peu pitié parfois, c'est un dur mot, tu vois. Mais des fois, je les vois, je me dis, mais waouh, quoi. C'est, ou même des gens, tu vois, qui l'ont fait au point d'être maraîcher. Et pareil, hein, crois bien que, d'ailleurs, moi, tu vois, avec le projet qu'on développe, moi, j'ai qu'un rêve, c'est d'être un peu mécène de maraîcher bio, de maraîcher sur sol vivant, de pouvoir les soutenir, parce que pour moi, ce sont eux les héros, quoi. Ceux qui fournissent leur village, ceux qui fournissent des familles qui font 40, 50, 100 paniers. Putain, ils sont, excuse-moi de la vulgarité, mais ils sont nourris au lance-pierre, quoi. Et tu vois, nous, on se nourrit en créant du contenu. Quelque part, je me dis, ouais, tu l'as facile, quoi. Parce que c'est presque plus dur de créer du bon légume que de créer des vidéos, tu vois. Donc, vraiment, chapeau à eux, quoi.
Et d'ailleurs, j'avais une question à ce sujet qui m'était venue hier. Est-ce que toi, c'était pas du tout une vocation, une volonté ou peut-être une envie, un désir peut-être d'un jour te dire, bah tiens, moi j'ai un super potager, j'aimerais bien aller faire quelques marchés comme ça, mais sans pression comme ça.
Tu vois, je l'ai pensé il y a de nombreuses années. Et alors, est-ce que c'est le courage ou est-ce que c'est la raison? Si tu veux, il faut s'écouter, hein, il faut voir qui on est. Je te prends l'exemple des travaux. Moi, j'ai agrandi ma maison, j'ai fait mes terrasses, hein, j'ai sorti la bétonnière et je me suis éclaté parce que je l'ai fait pour moi, tu vois. C'est ma terrasse, je suis content. Mais de là à être maçon et faire des terrasses pour tout le monde, jamais de la vie, tu vois. Ben, en fait, pour le potager, c'est pareil. Produire mes légumes, aller dans ma terre, dans mon terrain, il y a quelque chose d'égoïste peut-être, hein, de possessif, tant pis, je l'assume, mais faire de la nourriture pour moi, ouais. Par contre, faire de la nourriture pour autrui, bah, je pense que c'est une générosité, enfin, il faut être cash, hein. Je pense que c'est une générosité, un don de soi, ben, je l'ai pas, tu vois, je suis pas la personne la plus formidable au monde, j'ai pas eu le courage, hein, ou en tout cas, je me suis écouté et j'ai pas eu cette volonté-là. J'ai préféré. Moi, j'ai un gros rôle de papa dans ma vie, tu vois. Souvent, j'ai presque la voix qui tremble là aussi parce que des blessures d'enfance là aussi, tu vois. Mais je veux vraiment, vraiment du temps pour les enfants, pour les. Et tu vois, j'avais peur que mon équilibre soit trop pris par mon métier. Donc, j'ai une admiration folle, tu vois, pour ces gens-là. Mais mon potager, j'ai voulu le garder quelque part comme quelque chose d'accessoire et pas. Au point d'en faire un métier, d'en faire des marchés. Franchement, quand je vais sur les marchés, tu te rends compte, les gens, ils se lèvent à 5h, ils y vont, ils montent le stand, la gestion des stocks et tout, l'enjeu pécuniaire derrière, c'est un truc de dingue, vraiment. Chapeau à ces gens-là, quoi, vraiment. Ouais, vrai. Ouais, quelque part, on n'aurait qu'une envie, je te dis, c'est qu'ils soient riches de ça, quoi, en temps de travail et en argent. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en temps, ça leur prend tout leur temps et en argent, ils n'ont pas grand-chose, hélas.
Et je voulais voir avec toi, tu vois un peu ta communauté, mais tu vois aussi probablement les gens autour de toi dans ton, je sais pas si tu vis dans un village, dans une ville.
Oui. Oui.
Les gens savent que tu as, je présume, un potager. Est-ce que tu vois les jeunes avoir plus une conscience que finalement avoir un potager, en plus un grand comme toi, ça a aussi un petit acte militant, écologique, ouais. Pour le futur aussi des futures générations. Est-ce que toi tu vois la jeunesse voir différemment la nourriture, en fait l'alimentation et la nature?
Ouais. Oui. Alors, tu vois, là-dessus, bah, peut-être qu'on aura pas des désaccords, je sais pas comment dire, mais moi, je suis un éternel optimiste, tu vois. Je crois en l'avenir, en fait. Je crois en l'être humain, même malgré tout ce qui se passe, tu vois. Je crois qu'il y aura des négociations, des ententes. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est une conviction profonde. Et la jeunesse, je le vois dans les rencontres. Je fais venir souvent des enfants de la médiathèque. Complètement émerveillé. Je le vois quand sur les conférences que je fais, il y a énormément de prise de conscience, il y a énormément d'entrepreneuriat. Je trouve toujours pareil, tu sais, qu'on donne trop de lumière aux 0,1% qui marchent pas, quoi, dans la France, dans la société, dans l'être humain. Sitôt qu'il y a un dysfonctionnement, on va focaliser là-dessus, tu vois, et on oublie que 99% des choses se passent bien. Il y a quand même énormément de choses, tu vois, ne serait-ce que pour l'agriculture. Bon, c'est vrai, il y a des dégradations de sol, mais moi j'ai toute ma famille, ma belle famille qui sont en reconversion sur de l'agriculture qu'on appelle de conservation de sol, sur couvert, pour semer sous du paillage. Et tout ça, c'est, il y a quand même des organismes, des associations, même des organisations d'État, tu vois, qui sont financées. Il y a vraiment beaucoup de choses positives. Donc moi, pour la jeunesse et tout, je suis hyper confiant, quoi. Vraiment, je me souviens de conférences, tous ces jeunes. J'essaie de mettre un petit peu de positivisme. Je sais que il y a beaucoup de catastrophisme dans les actualités, dans ce monde. Je bannis pas tout là-dedans. J'ai envie de croire qu'on va vers un monde meilleur. C'est dur à dire, hein. C'est dur à dire, mais voilà, j'assume ce côté-là. J'essaie de me dire que chaque matin, on respire un air respirable, le ciel est encore bleu. Je croise les doigts que ça dure. Donc franchement la jeunesse et tant mieux si je peux en être un petit acteur, tu vois. Après, sur le côté militant, je prends garde là aussi à garder mon rôle d'informateur plutôt que d'influenceur, tu vois. Je sais pas vous comment vous abordez la chose, on a tous des convictions, c'est vrai, mais j'ai pas trop envie d'influencer les gens à mes convictions. J'ai juste envie d'informer, de partager une expérience, de partager ce que je pense être des bonnes façons de faire, mais j'ai pas trop envie d'influencer, tu vois. Ce mot d'influenceur, il est pas... Je sais pas vous comment vous le voyez.
Non, c'est intéressant parce que souvent on le dit avec Karine, qui est donc notre sœur, qui est diététicienne nutritionniste, et Claudie, qui est naturopathe, avec qui on travaille. On se dit souvent, en fait, nous on est là pour informer. C'est ce qu'on dit souvent parce qu'on se dit, mais à l'école on n'apprend pas tout ça. Et ça, c'est fort dommage. À l'école, on n'apprend pas aux gens, aux enfants, à gérer leurs émotions, à équilibrer une assiette, à savoir comment ça fonctionne leur corps, à faire un potager. Ça ne se fait pas tout ça. Et nous, on se dit juste que on essaie d'apprendre d'informer les gens des choses qui sont essentielles dans la vie, parce que vraiment c'est essentiel ce que l'on nous, ce qu'on propose sur la plateforme, on se trouve que c'est essentiel. Toi, ce que tu proposes, c'est essentiel pour les personnes qui sont aujourd'hui intéressées, en tout cas. Donc oui, nous moi j'aime pas du tout, moi j'estime pas que je suis une influenceuse. C'est pas mon métier en tout cas d'être influenceuse, ça c'est clair. C'est plutôt ce côté d'informer en effet les gens à des choses qui
et que chacun fasse leur bon choix.
Et après chacun fasse le bon choix, et après ça eux de répercuter sur les autres. En fait, nous on est un maillon, on est peut-être une graine qu'on a plantée dans la tête de quelqu'un qui après nous on le voit, il y a une dame qui va nous écouter, qui va en parler à sa collègue va dire à sa maman. Nous on entend toujours ça. Moi ma collègue vous connaît parce que ma maman me truc nanana. Et après ça c'est le chemin, c'est plus à nous. Nous on était une personne qui a planté une graine, après le chemin se fait sans nous, quoi. Et c'est intéressant, ouais.
Et c'est vrai, puisque c'est ce qu'on a fait par exemple aussi avec toi, hein. C'était Marisa m'a dit, va voir le potager d'Olivier, ok, je l'ai fait. J'en ai parlé à mon conjoint, bon, lui il rate pas YouTube, mais du coup il a compris, il m'a acheté ton livre. Ouais. Ensuite, j'en ai parlé à mon amie Claudie qui s'est abonnée à ta plateforme aussi. Oui. Donc finalement, alors que tout ça, ça se fait en coulisses, on le dit pas, ah, vous savez, non c'est des choses qui se font entre nous et voilà, on diffuse. C'est ça qui est important. Mais avant de conclure, nous sommes en mars.
Oui. Moi j'ai une question aussi.
Après la tienne.
Nous sommes en mars. Comme toutes les personnes comme nous, comme moi,
en mars,
c'est le début. C'est bon, la saison va être lancée parce que généralement nous on fait pas de potager octobre, novembre, décembre. Généralement l'hiver on arrête.
Ouais, comme beaucoup de gens, oui.
Voilà, donc là on sait que tu vois là tout à l'heure on part avec notre maman à 14h en jardinerie pour commencer à regarder, à s'y mettre. Nous on a déjà commencé à tout bêcher, retourner à terre, etc. Elle est prête. Quels sont tes conseils quand voilà on commence son potager comme moi aujourd'hui, tu vois, moi j'ai 4 mètres carrés donc c'est tout petit, mais je vais en prendre bien soin cette année. C'est quoi toi tes conseils que tu donnes en règle générale quand on te dit voilà on est au mois de mars, le printemps arrive, on va se mettre au potager, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les conseils que tu donnerais?
Ouais, alors je vais essayer de faire rapidement. Bah si tu veux, le premier conseil c'est que moi, j'ai clairement une vision du potager biologique et je pense que vous aussi, tu vois. Donc, biologique, ça veut dire que ça passe par le sol, d'accord ? Plutôt que d'aller via des engrais minéraux, comme on fait souvent dans l'agriculture, où tu donnes des petites pilules blanches, bleues, ça nourrit les légumes. Là, si tu veux, on va essayer d'avoir du goût, ça passe par le sol. Donc, la priorité, c'est de s'assurer que tu vas avoir un bon sol, tu vois, bien riche, comme un frigo plein, en fait. Où tout ce que tu vas semer, planter, bah, les légumes, ils vont trouver de quoi se nourrir. Donc, pour avoir un bon sol, bah, soit tu as la chance d'avoir un beau sol de départ, tu habites dans une région, tu le vois rapidement, hein, tu mets un coup de fourche, de pelle, tu remontes ça. Si ça s'effrite dans tes mains, si en plus il y a des vers de terre, si c'est un peu noir, bah, limite, tu vois, tu n'as presque rien à faire, juste tu désherbes un peu la surface et tu plantes, on verra quoi après. Après, au contraire, genre chez moi, tu peux avoir ce qu'on appelle des terrains de vigne, de la caillasse, des cailloux, un truc hyper compact, tu n'y rentres même pas un outil. Ben là, il faut que tu prennes soin de te recréer un sol. Donc, tu peux aller chercher du terreau en grande surface, enfin en jardinerie. Tu peux trouver des composts, tu peux trouver des composts de fumier. Tu peux trouver même de la terre végétale qu'on vend en sac. Tu vois, pour essayer de te recréer un petit carré potager, vraiment avoir du sol, quoi. Tu peux même rajouter ce qu'on appelle des engrais organiques, c'est des engrais naturels, hein, que tu trouves en jardinerie. Et hop, tu te recrées 20, 30 centimètres de terre. Donc déjà, tu vois, avoir un sol. Et ensuite, il faut que tu sèmes et que tu plantes des choses de saison, tu vois. Donc là, en mars, le problème, c'est qu'il gèle encore dehors, tu vois. Donc, il faut mettre des choses qui supportent des petits gels. Donc, tu peux semer des petits pois, tu peux semer des fèves, tu peux semer des mangetous, tu peux commencer à planter des plants de blettes. Hein. Tout ça, c'est des salades. Tout ça, c'est des légumes verts, des légumes feuilles qui sont très précoces. Et après, tu vas attendre un mois ou deux pour planter les cultures estivales. Et là, c'est ce que font 70-80% des jardiniers. Ils attendent mi-avril à mi-mai. Nous, à partir de mi-avril, tu vois, on peut se lâcher dans le sud, il y a presque plus de gel. Là où il fait plus froid, vous attendez vers la mi-mai, et là, tu vas acheter des plants directement, parce que les semis, c'est contraignant, tu sais, il faut partir de la graine. Donc, c'est un petit peu comme si tu étais jeune parent, tu vois, il faut s'en occuper tous les jours. Donc, souvent, les gens, ils aiment bien partir de plants, et là, tu vas te dépanner chez des petits producteurs, chez des marchés, chez des jardineries, et tu vas acheter des plants de tomates, de concombres. Moi, je conseille la tomate, bien sûr, avant tout. Rajouter un plant d'aubergine, de courgettes, tu sèmes quelques haricots et hop, tu te fais ton petit potager, quoi. Mais vraiment, le sol, moi, tu sais, c'est le mot que je répète dans toutes mes vidéos, quoi. Hein. Là, encore dimanche, je viens de planter mes pommes de terre, là, dans ma terre, que ce soit en sac, que ce soit en pleine terre. Ben, tu vois, j'ai fait un mélange de terre avec du compost de fumier d'âne, avec un petit peu de terreau aussi. Ça fait un mélange, là, où les patates, elles vont y trouver plein de richesses et on va avoir, d'ici 2-3 mois, des super patates qu'on va se régaler, quoi.
Non, moi ça me fait rire ce que tu dis, enfin ça me fait rire pas du tout, ça me fait beaucoup réfléchir parce que là je reviens d'une retraite de 4 jours de yoga, chose que j'avais jamais fait, et moi le yoga c'était quelque chose qui était une pratique juste sur du tapis, enfin peu importe, c'est juste ça, et comme le potager t'as l'impression que oui t'as un potager, c'est bon, t'as des légumes, alors que ce qui est intéressant, ce dont on a partagé aujourd'hui, c'est comme la retraite de yoga, c'est de comprendre qu'il y a une sorte de philosophie, un art de vivre derrière qui n'est pas juste je fais du yoga sur mon tapis, je pratique. Il y a tout un... En fait, c'est comme moi, je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre sur plein de choses dans ma vie. Mais j'ai aussi un côté spirituel un peu chelou aussi. Enfin, je suis les deux, hein, comme beaucoup d'entre nous, de toute manière.
Pareil, je te rejoins.
Et c'est vrai que t'as ce truc de se dire, mais en fait, c'est pas que... Le potager, c'est pas juste. J'ai des tomates, comme là tu nous as dit, bah c'est bien. Moi, ça me permet de savoir aussi quoi planter. Mais c'est aussi tout ce truc à côté qui est vachement enrichissant quand on a envie de s'y pencher. En fait, je trouve ça vachement intéressant. Est-ce que Laura, toi, t'avais d'autres questions par rapport à juste parce que toi, t'es vraiment égoïste, c'est juste pour ton potager.
Bah,
hein.
Attends, non, parce
c'est pas pour vous, hein, les auditeurs.
Non, si, c'est pour mon potager. Mais je sais qu'on est nombreux quand même. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Laura, est-ce que tu te relances dans l'aventure? Oui. Je me relance cette année. J'ai dit, ça, c'est hors de question. On prend un deuxième bac cette année. On n'avait que un l'année dernière. On en prend un deuxième. Donc, non, moi, j'ai eu... après, moi, j'ai son livre. Donc, c'est facile.
Allez vous procurer son livre et allez regarder sa chaîne YouTube aussi, c'est important.
Et moi, en plus, je suis abonnée à la plateforme Terra.
que tu as créé, du coup, on n'a même pas parlé, mais que tu as créé quand? C'était cette année ou c'est l'année dernière?
Oui, les terrasses à trois mois. Ça, c'est quelque chose qu'on a créé en plus de la chaîne pour vraiment... en fait, c'est sur la notion d'expérience, juste pour finir là-dessus. Parce que, tu vois, ça me fait penser quand j'avais écrit mon premier livre. Après, on m'avait vachement démarché, des grosses boîtes et tout, d'édition. Et il me disait, ça m'avait énormément marqué, il me disait, les gens, ils veulent pas des connaissances, ils en ont marre, on leur dit tout le temps dans la vie ce qu'il faut faire, il y avait le Covid et tout, on nous dit, il faut faire comme si, on a droit à ça, on n'a pas droit à ceci. Et ce qu'ils veulent, c'est juste de l'expérience. Ils ont juste envie, tu vois, comme vous partagez votre expérience, votre façon de faire. Et du coup, Terra, on a vraiment misé à fond là-dessus, c'est-à-dire que plutôt que de trouver des calendriers que tu trouves partout, avec écrit « Plantez vos tomates de mi-mars à mi-juin », que tu sais rien en faire de ça. Mais là, en fait, on a mis des calendriers au jour près, à la date près, de tous les climats qu'on peut trouver en France. Et ce qui fait que les gens, ils ont une expérience. Après, tu vois, c'est pas forcément une réalité, c'est pas forcément... Mais tu vas et hop, tu es comme une petite souris, tu dis « Tiens, Denis, il fait ça, à telle date, à tel endroit, en telle quantité, en tel moment ». Et moi, c'est un peu ce que j'aurais rêvé en tant que débutant, tu vois. Je m'en souviens, j'étais paumé complet. Et puis, tu trouves plein de choses contradictoires. Donc, du coup, ouais, c'est sur cette notion d'expérience. C'est un peu ce que je fais sur ma chaîne, mais encore plus poussé sur cette plateforme. Et bon, ma foi, apparemment, ça marche bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin vraiment d'être pris quand même par la main de A à Z, surtout sur les premières années.
Bah oui, c'est impressionnant quand même.
C'est impressionnant quand on n'a jamais fait. Et moi, quand je suis allée sur Terra, je me suis dit, bon, allez, moi, c'était pour en plus, je le soutiens parce que j'aime beaucoup Potager Olivier, etc.
C'est gentil, hein.
Mais finalement, j'y suis, surtout là, en début de saison, hein, j'y suis beaucoup. Claudie aussi m'a dit l'autre fois quand on l'a vu, moi, j'y suis, hein, je le laisse ouvert, moi, le calendrier. Et moi, du coup, j'ai tout mis dans mon agenda, tu vois, dans mon Google Drive.
Google Agenda.
Je sais à telle date, etc. Mais ça peut paraître bizarre parce qu'on me prend par la main, mais oui, parce que je n'y connais rien. Donc, je pense que cette première année, j'ai besoin justement d'être prise par la main. Et je sais que, par exemple, là, hier, je devais semer mes petits pois. Est-ce que je l'ai fait?
Non.
Bien sûr que non. Est-ce que je vais faire aujourd'hui?
Et ça, c'est pas grave.
Et attends, Olivier, avant de se quitter, t'as parlé des épinards, maintenant t'aimes beaucoup ça, et les gens qui nous suivent et qui nous suivent sur les réseaux savent que c'est un peu mon légume phare de ma vie, l'épinard. Avant de se quitter, comment tu cuisines? Dis-moi une recette rapide, mais un truc vraiment simple. Qu'est-ce que tu fais de tes épinards, tes pousses d'épinards que tu récoltes?
Alors moi j'ai un gros faitout, tu vois, vraiment un genre de grosse marmite. Hein. Bah je mets un petit peu d'huile d'olive au fond. Des fois je fais revenir quelques petites friandises.
Des lardons,
ouais, des pignons, des choses un peu croquetées comme dans Top Chef là. Il faut du craquant.
Ah oui, ouais.
Mais bon, t'es pas du tout obligé. Donc je mets le fond d'huile et je balance mes épinards. Vraiment, je fais déborder limite la marmite parce que ça réduit après très rapidement. Et alors ça dépend vraiment. Au départ, j'avais vraiment tendance à mettre systématiquement un petit peu de crème pour adoucir. Mais en fait, et même ma femme qui souvent, elle est cuisine, mais vraiment, elle veut pas la crème, elle veut vraiment 100% le légume, le goût. C'est tellement doux qu'en fait, juste huile d'olive, on les fait revenir, pas de vapeur, rien quoi, hein, vraiment. Hein. Ils réduisent au fond de la marmite, hein, et on sert ça avec un petit féculent, avec un petit accompagnement. Mais je répète, là, c'est les enfants de suite qui me viennent en tête. Hein. Alors pour eux, un petit peu de crème, ça les fait encore plus kiffer quoi, ils adorent ça. Mais franchement, là, c'est la recette la plus simple qui puisse. Hein, donc balancer dans un faitout avec de l'huile d'olive, il faut quoi, 5 minutes quoi. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est à quel point ça réduit, hein. Tu récoltes un panier, mais comme ça tu te dis c'est bon quoi, là j'en ai pour 15 personnes, et en fait
c'est le légume arnaque un peu, je trouve. Ouais. C'est le légume arnaque, mais que j'aime tellement, ouais. L'épinard, et juste pour savoir, c'était un peu le clin d'œil, parce que tout le monde sait que quand même Marisa adore ses épinards.
Ouais, j'adore ça aussi.
Et comment tu les mets? C'est vrai que la simplicité, ça a du bon. Hein. Ouais.
Ouais, avec des œufs, avec une omelette. Franchement, c'est le paradis là. En plus, c'est des récoltes assez précoces en saison. On les attend là. On est impatients de ces épinards. Et ouais, non, vraiment, vraiment, vraiment sympa.
Bah, tu m'as motivé. On va partir à 14h en jardinerie et je vais aller chercher mes petites choses pour cet après-midi.
Ouais, les épinards,
super.
Tu peux semer. Ouais, je te dis, ça. Après, si t'habites dans une région, il peut faire encore moins 7, moins 8. Il faut attendre un peu, tu vois. Ou alors tu mets un tunnel, mais bon, de suite, c'est compliqué. Il faut protéger. Mais sinon, ici dans le sud, depuis fin février, on commence à semer les épinards dehors.
Ouais, nous aussi, on ne va pas avoir de soucis.
Dans un mois et demi.
Ah, tu vois, tu les récoltes dans un mois et demi. Comment ça se fait alors que moi, j'en trouve partout en ce moment chez le. Moi, j'en ai dans mon frigo, là, chez mon mari.
C'est les épinards d'hiver?
Il y en a aussi les épinards.
Non, alors tu as des gens qui, tu peux arriver à semer des épinards en automne si tu veux, et dans les régions douces ou sud ou sous tunnel, ils passent en fait l'hiver dehors, ils végètent et ils se mettent à, tu vois, à produire là dès le début du printemps. Ouais, ouais. Donc non, ça reste un légume de saison. L'épinard, il y a que l'été où il aime pas ça, il a trop chaud. Mais sinon, tu peux en récolter pratiquement toute l'année.
Ok, super. Bah merci beaucoup Olivier pour.
Merci à vous
d'avoir échangé avec nous. C'est top.
Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode. À plus.
À bientôt.